voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Nejma Bouakra rencontre Françoise Vergès. Ce soir, les horizons renversés.
Françoise Vergès anime les mots avec précision. Le maniement de la langue est une arme miraculeuse, comme le dit le poète Aimé Césaire. Vous la croiserez debout, prenant la parole publiquement dans toutes sortes de rencontres universitaires, de manifestations artistiques. Elle est là où se traduisent les résistances à l'hégémonie culturelle et politique. Aux ateliers de la pensée avec Achille Mbembe, Elsa Dorlin, Félouine Sarr, au Mexique, à Berkeley, aux côtés d'Angela Davis, mais aussi à La Réunion, à Madagascar ou au Vietnam. L'historienne et politologue tresse consciencieusement une cartographie post-empire. Car selon ses propres termes, l'histoire occidentale ne peut prétendre incarner l'histoire universelle. La géographie du récit historique doit s'étendre au-delà des territoires nationaux pour faire apparaître des échanges et les rencontres, et ainsi s'émanciper du modèle limité et exclusif de l'accession progressive de tous à une conception de la modernité. Il s'agit de dépasser une histoire mutilée qui fabrique des territoires invisibles, des temporalités absentes et des personnes jetables, et de retracer les croisements transcontinentaux, les emprunts, les zones de contact. Nous tenterons aujourd'hui avec vous, Françoise Vergès, de partir de votre propre récit et de ses frictions inattendues. Bonsoir, Françoise Vergès.
Bonsoir.
En 1983, vous êtes à la frontière mexicaine. Vous allez bientôt rentrer aux États-Unis, mais que viviez-vous à cette frontière ?
J'étais à cette frontière, j'attendais mes papiers pour rentrer aux États-Unis et j'étais donc plusieurs mois au Mexique, ce qu'on appelle Baja California et Tijuana étant la ville frontière. Nous étions dans les années donc 80 et commençait déjà cette hystérie qui a conduit à l'idée de construire un mur désormais. Et qui était sur la peur de ces gens qui venaient du Sud. Et moi, donc, j'attendais mes papiers au consulat américain et j'ai pu voir toutes ces femmes et ces hommes qui fuyaient les guerres au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, ou la pauvreté, la misère, et qui essayaient de passer El Norte, comme on disait. Ce qui m'a intéressé, c'est que les gens dormaient là la nuit. Moi, j'arrivais très tôt le matin. Ils avaient à passer la nuit pour être les premiers dans la queue. Le processus était clairement un processus d'humiliation pour que la personne qui demande les papiers entre dans la peau de quelqu'un qui pratiquement se met à genoux pour demander d'entrer. Enfin, pour moi, c'était cette impression que ça me donnait, c'est-à-dire vraiment de vous dire que c'est une incroyable générosité qui vous est accordée et que vous êtes redevable. Évidemment, la question n'étant jamais posée, comment les États-Unis avaient contribué à la destruction de ces pays et de ces sociétés, et pourquoi les gens fuyaient ces pays et ces sociétés. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est moi aussi, quand même au Mexique, j'ai beaucoup aimé. Il y avait une inflation absolument terrible, c'est un peu comme dans les livres, c'est-à-dire, pour acheter un kilo de tomates, ça coûtait un million de... vous transportiez constamment d'énormes quantités de billets pour payer des choses tout à fait banales. Donc tout ça a été assez intéressant à voir. Ce qui était, et puis cette question de cette ville frontière, qui est donc il y a juste une rivière, la rivière de Tijuana, qui sépare San Diego de Tijuana, et l'incroyable militarisation de la frontière qui déjà se faisait. C'est-à-dire arriver aux États-Unis, on passait par des tas de, mais on voyait vraiment c'était tout à fait bloqué, alors que pour rentrer au Mexique, on voyait les voitures qui rentraient très facilement. Donc c'était une mise en scène très concrète de la frontière aujourd'hui dans ce qu'elle représente d'inégalités économiques, culturelles, sociales et politiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir apparaître ce qui est devenu ensuite depuis un grand sujet dans les études postcoloniales ou sociologie sur comment on construit une frontière et ce qui se passe à cette frontière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les régionalisations que font les gens d'en bas. Que font les migrants, les pèlerins, les marchands, les personnes, les marins, les personnes qui circulent. C'est-à-dire comment, quelles sont les cartographies du monde qu'ils dessinent, de ces mondes qui justement ne respectent pas les frontières étatiques, les frontières imposées, et qui forment des régionalisations. Donc comme moi je suis de l'océan Indien, je me suis vraiment très tôt intéressée à ces régionalisations, c'est-à-dire à ces villes-ports où se retrouvent des personnes qui justement... se retrouve autour d'objectifs comme le commerce, l'échange, surtout bon, le commerce et l'échange, et qui ne sont pas du tout dans des logiques étatiques. ces routes régionales qui sont dessinées, qui sont aussi dessinées aujourd'hui par les réfugiés et les migrants, et qui constituent justement des cartographies totalement alternatives qui ne sont pas du tout des cartographies nationales.
Vous pourriez nous les dessiner, justement ?
Si vous voulez, dans l'océan Indien, c'est un océan qui se constitue comme espace culturel bien avant l'arrivée des Européens. Et vous avez des villes-ports, par exemple Kilwa, Sofala, Mombasa. Mogadiscio a été une grande ville commerciale très tôt. Hormuz, Kolchekode, qui est devenu ensuite Cochin. Donc toutes ces villes étaient reliées entre elles. Il y avait des groupes de marchands qui étaient d'origine perse ou d'origine juive ou d'origine arménienne ou d'origine arabe et qui avaient une lingua franca, qui était souvent d'ailleurs l'arabe, et qui circulaient. Et c'était un monde qui était basé sur la confiance, hein, l'échange bancaire, mais en toute confiance, sur des billets. Et on a des grandes familles qui se constituent, mais on a aussi ce qui était très intéressant à voir, c'est l'incroyable diversité des biens qui s'échangent à l'époque. C'est-à-dire, vous avez de l'ivoire qui va vers la Chine, vous avez de la porcelaine chinoise qui arrive à Kilwa, qui est quand même dans le sud, à peu près à la hauteur de ce qu'on est le Mozambique aujourd'hui, et jusqu'à Madagascar. Donc on voit vraiment, il y a des chameaux, des chevaux, enfin vraiment des tas de biens qui s'échangent, et puis aussi des êtres humains. Et ça donne, si vous voulez, une vision tout à fait différente de cette cartographie qu'on apprend à l'école, qui se dessine à partir des guerres, des conquêtes, et que tout d'un coup on voit apparaître des continents et puis des frontières, et en fait ça suit une histoire militaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ces histoires qui ne répondent pas du tout à des conquêtes militaires, mais parce que les gens se lancent sur les routes. Je me souviens d'avoir lu des journaux de bord de femmes pèlerins chabonaises qui allaient jusqu'au Sri Lanka pour retrouver les pas de Bouddha, et jusqu'aussi au nord de l'Inde, ce qui est aujourd'hui le Bihar, là où on pense que Bouddha a eu sa révélation, enfin son illumination. Et donc c'était des femmes qui, quand on imagine le Japon jusque-là, c'est quand même énorme, et on a donc affaire à tout à fait une autre vision aussi de ce que c'est que le voyage, de ce que c'est que la découverte, de ce que c'est que la rencontre, que celles qui ont été imposées par le récit occidental de la découverte de l'autre, de la frontière, que ce soit l'orientalisme, dans l'orientalisme ou dans d'autres idéologies.
Ce n'est pas le front pionnier qui vous intéresse.
Non, c'est pourquoi les tissus circulent, pourquoi par exemple ce qu'on appelle le wax africain, c'est en fait un tissu d'origine indonésienne que les Hollandais en fait piquent aux Indonésiens. Et ils le font à Amsterdam, ils le vendent sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest et ça devient aujourd'hui un tissu africain pour nous tous. C'est ça qui m'intéresse, la manière, voilà, aussi des choses circulent, des goûts, et qui échappent totalement à ces logiques impérialistes.
Nous allons suivre vos propres pas, votre itinérance à vous, Françoise Vergès. Donc, vous allez réussir à passer la frontière, celle du Mexique, pour aller aux États-Unis. Et là, vous allez poursuivre vos études aux États-Unis. Et c'est un véritable renversement de perspective. Vous allez trouver de nouvelles sources biographiques sur la question de l'esclavage, notamment.
Oui, évidemment, quand on raconte comme ça, on a toujours l'impression qu'on suit un chemin bien balisé. Voilà. Moi, mon chemin, il a été aussi fait de doutes, de moments avides, de régressions, de pertes, de me poser des questions, et puis de choses inattendues, si vous voulez. C'est pas du tout, il y a des choses qui n'ont pas été du tout prévues. Quand je reprends mes études, ça vient, quoi. C'est presque, bon, c'est un moment où je me dis, il faut que je reprenne des études, mais c'était pas mon projet. Et donc, quand j'arrive, je reprends des études, j'ai derrière moi des années de militantisme, de travail, l'université n'est pas pour moi une découverte au sens, ce n'est pas là que j'apprends nécessairement des choses, mais en même temps je lis, quoi. L'université, c'est quand même de travailler sur des sources et des textes, et c'est ces croisements qui vont m'intéresser, ces croisements entre mon expérience et ma pratique, mes souvenirs de petite fille, d'adolescente et de jeune femme, et les textes que je rencontre, et donc cette expérience de les théoriser, de mettre en mots plus proche d'une langue universitaire ce qui ont été mes idées.
Mais Aux États-Unis, Toni Morrison, par exemple, passe à la télévision dans les années 70. Des textes circulent de militantes, de collectifs, des universitaires noires ont pignon sur rue. Ça, c'est nouveau.
Quand j'arrive d'abord, existaient les Women's Studies. Donc moi, je fais une double licence en études féministes et en sciences politiques. Évidemment, je me sens, il y a une familiarité, en fait, grâce à ce que vous décrivez, c'est-à-dire la présence d'un corpus beaucoup plus critique, beaucoup plus radical dans l'université que dans l'université française, malgré 1968, fait que j'ai une familiarité aussi en même temps. Parce que finalement, je rencontre des gens avec qui je partage beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas l'écart, ah, c'est les Américains et moi, je viens de la France. Pas du tout. Au contraire, il y a une entente très, très rapidement. Et en fait, à l'université de San Diego, je me fais des amis qui sont restés des amis jusqu'à aujourd'hui, qui étaient mes professeurs. Mais parce qu'on s'entend tout de suite. S'entendre au sens de vraiment, on entend ce qu'on dit.
Qu'est-ce que vous trouvez ?
Une liberté, une très grande liberté. Je pense que si je me suis mise à écrire comme j'ai écrit à l'époque, c'est parce que j'étais aux États-Unis. C'est parce que j'étais dans ces milieux que je trouvais qu'on m'écouterait, qu'on n'allait pas me demander constamment de me justifier. Et l'anglais me permet aussi une très grande liberté de ne pas avoir à écrire en français, de pouvoir écrire en anglais. Et pour moi aussi, une ouverture très grande. D'abord, c'est une langue que j'adore, qui produit en moi un très grand plaisir, une très grande joie. Donc en plus, il y avait plusieurs raisons. Une stimulation intellectuelle plutôt que d'être dans une position défensive ou réactive comme je pense que je l'aurais été en France.
En France, si on revient à la France, ou plutôt à l'Hexagone, on peut dire, il existe peu de sources disponibles en français sur les questions postcoloniales.
Sur les questions postcoloniales, oui, je continue à lire énormément en anglais. Pour moi, je trouve peu, d'ailleurs. Ou alors, si vous voulez, ce qui s'écrit est aussi parfois trop franco-français. Et du coup, pour moi, ça ne fait pas nécessairement écho. Il y a aussi, si vous voulez, dans le corpus critique postcolonial en anglais, qu'ils viennent de l'Angleterre, de l'Inde ou des États-Unis, hein, enfin aussi du reste de l'Asie, qui ne vient pas simplement des États-Unis, il y a vraiment en général une très grande ouverture à ces constants croisements entre local et global, entre genre, race, sexe, classe, qui pour moi sont très très stimulants et qui me permettent de sortir des sentiers battus, peut-être de mes propres sentiers battus, puis des sentiers battus qui sont là complètement depuis toujours dans la recherche.
Ces recherches, elles viennent un petit peu provincialiser finalement les discours français, la recherche aussi ?
Oui, bien sûr. Je pense que si vous voulez, c'est vraiment déjà une dénationalisation de la pensée, que la pensée ne peut pas être nationale. Elle est critique, elle va s'intéresser à un lieu, évidemment, un espace qui pourrait être la France ou l'Italie ou l'Allemagne, enfin peu importe, mais pas à partir d'une pensée nationale, pas à partir d'une défense du national, mais à partir vraiment d'une approche critique d'un événement ou d'un processus et d'essayer de le comprendre et de faire peut-être des liens avec ce qui se passe aussi ailleurs. Ou alors comment ça a été traité ailleurs, ou comment les gens ont fait ailleurs. Et c'est cela, je trouve, qui est très riche, oui, beaucoup plus présent.
Parlons un petit peu de vos recherches. Elles provoquent probablement un renversement de perspective, mais ici, en France, vous parlez facilement des idéologies, enfin souvent des idéologies autour du bonheur, de la régénérescence, qui seraient un petit peu les utopies propres au XVIIIe et puis XIXe siècle, en disant finalement l'oisiveté ici, la sortie du travail, tout cela est rendu possible parce qu'il y a une ponction, une prédation, en Afrique notamment.
La bonne vie, la belle vie européenne, qui évidemment n'est pas accessible à tous et à toutes au premier coup, mais qui va quand même s'élargir régulièrement et progressivement, elle est rendue possible parce que des gens sont exploités ailleurs, parce que des vies deviennent la matière sur laquelle on fonde la richesse, et puis que ces corps, enfin ces personnes qui sont soit esclaves ou soit soumises au travail forcé, produisent envoient des produits qui rendent la vie plus douce. aux Européens. Le sucre, le café, le tabac, le coton, le chocolat. Et puis, fait aussi, on le sait, si vous voulez, des industries se sont développées en Europe à cause des colonies. Quand on pense à la traite, on pense souvent, bon, surtout évidemment aux Africains capturés et jetés dans la soute, mais on peut aussi penser au départ qu'il a fallu construire un bateau, qu'il a fallu le remplir de vivres, qu'il a fallu avoir des voiles, donc ça veut dire l'industrie de la toile, parce que les voiles c'était quand même énorme, l'industrie des cordages, les cordages il y en avait énormément dans les voiliers, le construire, donc ça veut dire les menuisiers, les charpentiers, l'industrie du bois. Ces colonisations ont contribué aussi au développement d'industries en France. Et il y a aussi toute une industrie même du vin, parce que les bateaux partaient avec du vin pour les capitaines, etc., qui va donc permettre du blé, parce qu'il faut remplir les barriques. Ça profite, si vous voulez. Donc parfois, quand on regarde, on essaye de voir directement. Ah oui, alors mais ça a coûté combien, ça a rapporté combien, comme si c'était une feuille comme cela. Des fortunes se font, qui peuvent être la fortune d'un vignoble, ou la fortune d'un marchand de blé, d'un armateur, de quelqu'un qui vend. Vous avez des fortunes qui se font sur les produits que l'on vend aux négriers. Les fusils qu'ils vont échanger, les porcelaines qu'ils vont échanger, qui vont servir de monnaie plutôt. Et donc on voit, c'est tout un tissu économique qui va profiter. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre à jour. C'est comme cela aussi qu'on comprend comment les choses se mettent en place.
Oui, parce que par contre, sur place, sur le continent africain, on parle de ship nature ou de ship labor. Ce n'est pas cher et puis il faut de l'investissement rapide, efficace.
Ces notions émergent vraiment dès le XVIe siècle, l'idée de l'Europe d'une nature qui se ressource constamment, qu'on peut détruire parce qu'elle va revenir constamment. C'est l'idée des tropiques, c'est l'idée des climats chauds. Vous coupez les arbres, ils repoussent tout de suite. Donc on peut en fait tout détruire. Si vous voulez, nature est là pour servir la plénitude de l'Europe, comme les Africains ou les Amérindiens sont là pour servir de main-d'œuvre à la plénitude. Donc on a une nature cheap, c'est-à-dire pas chère, parce qu'on pense que finalement elle est là, comme ça, pour servir, et aussi une main-d'œuvre cheap, pas chère, qui est là aussi pour fournir. Et donc ces deux idées de cheap nature, cheap labor, vont être très très importantes à la constitution de la richesse. N'oublions pas que la traite dure 4 siècles, c'est-à-dire que quand même, l'Europe va déporter plus de 15 millions d'Africains, c'est-à-dire que c'est une énorme ponction sur un continent. Avec donc le sentiment qu'on peut constamment envoyer des bateaux tous les ans, puisqu'il y aura toujours des personnes à capturer et à acheter. Cette idée aussi d'aller jusqu'au bout, si vous voulez, par exemple les mines d'argent, de les exploiter jusqu'au bout, jusqu'au moment où il n'y en a plus un seul filon d'argent, de couper toutes les forêts de bois d'ébène, d'accumuler, je veux dire, c'est vraiment une idée d'accumulation, d'aller dans un endroit et on peut tout détruire, détruire sa population, détruire tout ce qu'il y avait comme nature, ce qu'on appelle comme nature, et puis de se déplacer, même si dans ce lieu-là, ça ne se reproduit pas, les arbres ne repoussent plus, on a accompli un tel génocide qu'il n'y a plus personne, et bon, on se déplace. Les Européens vont se déplacer dans un autre endroit et reproduire cela. Donc, effectivement, cette idée d'extension aussi constante, qu'il y a toujours quelque part où il y aura de la nature et des êtres humains là, disponibles, pour fournir cette matière première de la richesse.
Vous nous dites que c'est une histoire commune. Et en même temps, en France, ça met près de 20 ans, non ? Contrairement aux États-Unis, est-ce que cette histoire, au fait que les gens puissent s'en saisir, c'est long ?
C'est long, mais pour moi, ce n'est pas du tout acquis, encore. Ce n'est pas pleinement acquis. Je pense que l'esclavage reste totalement mineur dans la conscience française. Il y a eu un tel travail qu'on a fini par savoir que la France avait pratiqué l'esclavage, mais ça reste totalement mineur. Ça ne fait pas du tout partie de la conscience. Ça ne fait pas partie de l'idée que ça a contribué à construire la France, comme les grandes guerres, Napoléon, Louis XIV, Jeanne d'Arc, la Première et la Deuxième Guerre. Ça n'a pas du tout ce sens. Moi, j'ai toujours pas ce sentiment. Je pense pas que ça ait été gagné.
Mais les frémissements en France, ils se sentent quand, par exemple, autour des années 98, c'est ça ?
C'est 98, oui. Ça a commencé dans les Outre-mer, dans ce qu'on appelle les Outre-mer, dès les années 60-70.
Vous n'aimez pas ce terme, Outre-mer ?
Non, pas du tout.
Mais enfin, pourquoi ?
Rapidement. Parce que l'Outre-mer de quoi ? Mais c'est la France qui est l'Outre-mer, quand on est là-bas. Enfin, de toute façon, l'Outre-mer de quoi ? Et c'est vrai que, de toute façon, le fait de ne pas trouver un mot, je pense, aussi traduit la difficulté de comprendre ce que c'est, quelle est la relation avec ces territoires. Mais pour revenir à votre question... La réappropriation de la mémoire de l'esclavage est liée à des moments de décolonisation en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, c'est-à-dire à la réappropriation de sa propre histoire. De dire, nous avons une langue, c'est le créole, c'est pas un patois, c'est pas un dialecte, nous avons une histoire, nous avons des cultures. Donc ça, c'est ce moment. Mais ça ne touche pas du tout la France hexagonale, mais alors pas du tout. Et puis c'est 98 à cause du 150e anniversaire de l'abolition définitive et finale, puisqu'on avait déjà une, le 27 avril 1848. Donc là, c'est en 98, au cours de ce moment, que une nouvelle génération arrive en disant, mais il ne s'agit plus de célébrer seulement les abolitionnistes français, il faut célébrer aussi les esclaves, leur résistance, qui va conduire aux premières demandes de loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui va conduire la loi de 2001, dite loi Taubira.
Mais ça ne vous convient pas que cette histoire-là se fabrique, cette date-là, finalement se fabrique à partir de l'idée d'abolition? Vous dites souvent, on ne peut pas penser l'esclavage par la fin, par l'abolition.
Oui, déjà en 1848, le gouvernement avait produit des affiches disant « tous nés en 1848 ». Et moi, ça m'avait totalement choquée, je n'étais pas la seule d'ailleurs, parce qu'on disait « mais on est nés bien avant ». Enfin, je veux dire, ces peuples sont nés dès lors qu'ils sont nés. Je veux dire, parce que c'était encore que la France qui leur donnait une date de naissance.
Et de délivrance, finalement.
Et de délivrance et de son histoire. Donc, il y a beaucoup encore de choses à écrire sur l'histoire de l'esclavage. Il n'y a pratiquement rien sur les femmes et l'esclavage en France. Pratiquement rien. On ne sait pas du tout comment ont vécu les femmes esclaves. Il y a encore énormément de choses à faire. C'est encore un énorme champ.
Il n'est pas facile, ce champ. Je veux dire, les récits ne se trouvent pas si facilement des captifs.
Il y a deux choses, je pense que pour la France, d'une part, de pouvoir dire le fait que ça a été dans des colonies lointaines, c'était loin. Hein. Et puis alors cette tendance aussi de penser en France que ça, il y a eu des gens qui ont fait ça, mais c'était pas vraiment des Français presque, si vous voulez, c'était des colons, mais ils avaient presque perdu leur identité de Français en devenant esclavagistes. Ce qui fait que d'éloigner cette histoire de soi, de ce qui a constitué la France. Mais cette idée d'une distance, et donc d'une distance par rapport à ce qui constitue l'histoire de France, c'est encore très très fort. J'entends encore dire que finalement, en France, il n'y a jamais eu ce qui s'est passé aux États-Unis, ça n'a jamais été aussi brutal, ce qui est totalement une vision de l'esprit. C'était extrêmement brutal dans les colonies françaises. C'était extrêmement cruel, c'était un système extrêmement cruel, extrêmement inhumain.
D'où l'importance pour vous de cette loi, la loi Taubira. Rappelez-nous les termes de la loi Taubira.
La loi Taubira, c'est la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité et qui demande que l'éducation, la recherche et la culture s'en emparent, enfin fassent connaître cette histoire. Je dirais qu'on est en 2018, bon, qu'il y a eu quand même quelques progrès, il ne faudrait pas être trop négatif.
Enfin, mais pendant
profondément, pour moi, ça n'a pas changé. Profondément, si vous voulez.
4 ans de polémique après cette loi, tout de même. Et vous étiez d'ailleurs sur le front, hein, qu'on soupçonnait cette loi de vouloir imposer une histoire mémorielle.
Oui. C'est toutes les attaques contre les lois mémorielles qui, en fait, visaient la loi Taubira. Ce côté vraiment d'une histoire qui reste mineure. Il n'y a pas du tout le sentiment que la traite et l'esclavage ont contribué à l'histoire de France, contribué au sens de ont transformé ses lois, ont transformé la conscience de soi, son identité. Il y a très 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 peu, mais pratiquement pas. Il y a une condamnation, parce que vraiment aujourd'hui quand même on condamne l'esclavage et la traite, mais il n'y a pas du tout le sentiment de se dire mais qu'est-ce que ça a fait à la France? Comment ça a changé la France et la société? Il n'y a pratiquement pas du tout le sens de ça. L'espérance de vie des esclaves au début de l'esclavage, pendant plusieurs années, mais je dirais quand je dis plusieurs années, les premiers siècles pratiquement, est de 8 à 12 ans, simplement. Parce que on en faisait venir d'autres. Donc c'est vraiment... Je crois qu'il n'y a toujours pas du tout le sentiment de ce que ça a été l'esclavage. On avait une vague image, quelqu'un enchaîné, tout ça, mais enfin, on n'a absolument pas idée de ce que c'était. Des femmes violées de manière répétée... Des femmes étaient violées 6 semaines après avoir donné naissance pour retomber enceinte parce que l'enfant était un capital et le ventre de la femme était un capital. On est dans un système d'une très grande brutalité, avec des tortures absolument terribles, des punitions. La moindre insurrection est extrêmement sévèrement punie. Il y a une peur des sociétés esclavagistes. Chez les Blancs, il y avait une très très grande peur. Donc toute forme de désobéissance était extrêmement brutalement et sévèrement punie. Parce que le système esclavagiste demande énormément de personnes. Donc dans toutes les colonies, vous aviez plus d'esclaves que d'hommes blancs libres. Toujours plus. Je redonne ce chiffre, si vous voulez, au moment de l'insurrection haïtienne, vous avez 500 000 esclaves sur la partie française de cette île, qui s'appelait alors Saint-Domingue, pour à peu près entre 30 et 40 000 personnes libres. Il fallait donc un système de terreur, une main de fer, pour tenir ces grands nombres de personnes dans la servitude. Et même aux États-Unis, où par contre les esclaves n'ont pas été toujours la majorité de la population, mais c'était pareil, c'était quand même dans les plantations, quand vous aviez une centaine d'esclaves et que vous aviez quelques contremaîtres, il fallait les tenir, il fallait un climat quotidien de terreur.
Vous dites qu'il y a également une fabrique du consentement.
Oui, ce que j'appelle la fabrique du consentement, je suis toujours intéressée de comprendre, si vous voulez, parce que j'aime pas les accusations comme ça, les gens sont pas bien, ils sont méchants. Mais comment ça se fait que ça dure 4 siècles? Comment on fabrique le consentement ou l'indifférence à la situation de personnes qui nous permettent d'avoir une bonne vie? Et que ça s'efface? Que finalement, moi, ce que je veux le matin, c'est mon café et mon sucre. Je ne vais quand même pas me poser la question de, comme disait Voltaire, combien de sang sur ces morceaux de sucre. Je ne veux pas le savoir, je veux, moi, c'est presque, ça devient mon droit. Donc la consommation, c'est le droit à ça, avec l'effacement, évidemment, des personnes. Donc comment s'obtient le consentement? À la fois par cette économie de la consommation et puis par le racisme. Le racisme contribue énormément au consentement.
Vous dites que jamais, dans ce mouvement, dans cette mobilisation autour de ces lois, vous n'avez demandé la repentance.
Oh non, pas du tout. De toute façon, la repentance, c'est quand même un terme qui est dans la vocabulaire et la pratique religieuse. On se repent devant Dieu. Moi, je ne demande à personne de se repentir. Je demande une responsabilité, une curiosité, une compréhension de comment ça a pu arriver, qu'est-ce qui pourrait arriver, comment justement s'est fabriqué ce système absolument de prédation cruelle et brutale. Et puis que ce soit enseigné, que ce soit montré, que toutes ces personnes aient le droit au respect, à la dignité. Mais la repentance, même les excuses, vous savez, moi, c'est plutôt une reconnaissance, oui, une reconnaissance. C'est-à-dire un vrai travail pour la France, ce serait de se dire, mais qu'est-ce que nous avons gagné? Pourquoi nous avons voulu être une grande puissance esclavagiste? Qu'est-ce que ça nous a donné? Comme évidemment, comme revenu financier, mais aussi comme bénéfice narcissique, comme bénéfice culturel. Donc en quoi nous sommes devenus français aussi grâce à ça? Si vous laissez une partie, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi à travers ça. Mais surtout aussi le droit, on néglige complètement que l'idée de ce que c'est que le travail libre, de ce qu'on appelle le travail libre, eh bien il est pensé parce qu'il y a un travail qui n'est pas libre. Donc comment se constitue cette idée de liberté, de travail libre? Parce qu'il y a du travail non libre. L'idée de citoyen, parce qu'il y en a à qui on nie les droits de citoyen. Donc égalité, fraternité et liberté se construisent parce qu'il y en a qui en sont exclus. Et donc, il faut quand même réfléchir à ça pour, si la France dit que ce sont des principes universels, ils ne l'ont pas été, et ils ne le sont toujours pas complètement.
Merci Françoise Vergès.
Merci.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Françoise Vergès. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Hélène Langlois, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.